Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Apple Intelligence se concrétise enfin en France. Avec le lancement de la première bêta d'iOS 18.4, les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle viennent enrichir l'iPhone, l'iPad et le Mac. Quelles sont les nouveautés qui font mouche? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple a annoncé de grosses dépenses aux États-Unis. Alexa se met à l'intelligence artificielle et le contrôle parental va se renforcer sur iOS. Nous sommes le samedi 1er mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer. Après la petite période de précommande, l'iPhone 16e est maintenant disponible dans le commerce depuis hier, vendredi 28 février. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tu es excité par le premier produit Apple de l'année ?
C'est à toi qu'il faut le demander, c'est toi qui l'as entre les mains. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est bien ? Alors, est-ce que Safari se lance vite ? Enfin, genre
Safari
de choses, quoi.
Safari se lance vite, effectivement, avec la puce A18, le Neural Engine, les 8 Go de RAM, c'est rapide. Non, alors ouais, j'ai pu lire un petit aperçu jeudi soir. Écoute, c'est vrai que en venant d'un iPhone 15 Pro, c'est le 16e est très familier et puis décevant sur quelques petits points, mais il faut le voir différemment, je pense. Il faut se mettre dans la place d'un possesseur d'iPhone 11 ou d'iPhone SE pour vraiment évaluer cet iPhone 16e comme il se doit. C'est ce que je vais faire dans les prochains jours, tout ce week-end et puis les prochains jours. Il y a aussi Florian qui va me donner un coup de main pour tester la partie cellulaire. Moi, je vais le tester sur le réseau Sosh Orange en 4G, parce que voilà, Sosh, c'est toujours de la 4G sur pas mal de forfaits. Et puis, Florian, lui, va le tester sur le réseau 5G de SFR. Donc voilà, on publiera un test complet dans les prochains jours.
D'accord, et je crois que la puce C1 a déjà fait un exploit dans les bureaux de Mac Génération.
Effectivement, à mon bureau, le premier truc que j'ai fait un petit benchmark, un petit speed test, parce que à mon bureau, avec le réseau d'Orange, je capte quasiment pas. J'ai une barre et je capte quasiment pas d'habitude. Et avec le 15 Pro, impossible de lancer le speed test, tandis qu'avec le 16e, c'est pas rapide, hein, c'est 1 mégabit par seconde, mais voilà, le speed test se lance. Donc c'était un petit truc comme ça. C'est plutôt de bon signe. On va voir si ça se confirme ailleurs, quoi. On va passer tout de suite au premier sujet de la semaine. C'est évidemment la première bêta d'iOS 18.4 qui est sortie il y a quelques jours pour les développeurs et pour les utilisateurs de bêta publique. Alors comme souvent avec les points 4, il s'agit d'une grosse mise à jour intermédiaire. Il y a des nouveautés un peu partout. Par exemple, dans Mail, il y a les catégories. Dans Siri, il y a de nouvelles voix. Dans Photo, il y a des nouvelles options de tri. Et puis, il y a aussi des nouveaux réglages d'application par défaut. Et évidemment, il y a maintenant Apple Intelligence en français et dans l'Union européenne. Alors, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, il faut un appareil compatible. Sur Mac, c'est pas trop un problème normalement, puisque tous les Mac Apple Silicone sont compatibles. Mais la liste est plus courte sur iPhone et iPad. Sur iPhone, il faut au moins un 15 Pro ou le nouveau 16e. Christophe, est-ce qu'il y a des nouveautés de 18.4 ou de Apple Intelligence que tu apprécies d'ores et déjà ?
C'est de l'acharnement. Tu sais bien que je suis le seul ou presque de cette boîte à ne pas avoir d'iPhone ou d'iPad compatible avec Apple Intelligence.
Mais tu as un Mac.
Oui, mais je n'ai pas encore installé la bêta.
Ah bah d'accord.
Est-ce bien raisonnable aujourd'hui d'acheter un iPhone 16 alors que le printemps approche déjà ? Je crois que je vais attendre. L'iPhone 16 aurait été moins cher, j'aurais pu m'en servir comme modèle de transition, mais là... D'ailleurs, c'est marrant, sur sa vidéo promotionnelle, Apple met beaucoup en avant Apple Intelligence, donc tournant sur le 16e, alors que iOS 18.4 et par conséquent Apple Intelligence ne sera pas disponible avant un petit mois. Bon bah, j'ai quand même lu vos articles, hein. Je suis curieux de tester les outils, on va dire, de texte d'Apple, mais en même temps, c'est sûr que c'est pas un manque au quotidien. Sur Mac, j'utilise Antidote, qui me propose régulièrement de reformuler certaines phrases. ChatGPT peut aussi m'être utile. L'autre jour, j'étais pas content d'un titre, j'ai joué avec lui jusqu'à ce que je trouve quelque chose de satisfaisant. Pour en revenir à Apple, il y a des choses qui m'intéressent. comme les fonctions résumées, mais le souci, c'est qu'elles n'ont pas vraiment l'air d'être au point. Voilà, le résumé des notifications, ça a l'air d'être quelque chose. Et puis, je crois que Mail a aussi un peu de mal à mettre bien en avant les mails importants. Enfin, voilà,
Ouais,
ça c'est.
les catégories dans Mail, c'est vraiment. On n'est vraiment pas convaincu par ça. Alors moi, je l'ai laissé encore activé pour tester, mais en fait, je crois que les catégories, c'est le meilleur moyen de louper des mails, quoi.
Non, mais c'est d'autant plus fou que la concurrence fait ça depuis des années. Outlook
Ouais.
propose ça notamment sur iOS. Et je sais même. Enfin, il le propose alors qu'on n'utilisait même pas le mot intelligence artificielle à toutes les sauces.
Alors, les
Et
catégories,
là.
c'est pas lié à Apple Intelligence, hein, c'est indépendant. Même
Ouais.
s'il y a peut-être
Mais c'est vrai que oui,
sûrement
c'est
un peu
vrai
de
que c'est
machine
disponible.
learning,
Oui,
mais
mais ils
ouais.
le mettent un petit peu dans leur. Dans leur source IA. Mais oui, quoi qu'il arrive, Apple Intelligence ou pas, ne pas y arriver en 2024, c'est quand même un petit peu gênant. Mais toi qui l'as, Apple Intelligence, alors, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, les notifications, il y a du bon et du moins bon. Je parle au niveau des résumés, notifications prioritaires. Les résumés peuvent marcher assez bien, comme donner des résultats très bizarres. C'est vraiment du tout double. Et puis, bah, pour le reste, les images Playground, j'ai envoyé quelques images à Nicolas. C'est pas très au point, on va dire. Notamment au niveau de. J'avais fait une image avec mon visage et grimé pour un anniversaire. Et en fait, les dents étaient très moches. Alors que mes dents sont pas comme ça normalement. Hein. C'est pas de la faute de mes dents. Donc, ça peut être un peu cringe par moment. Et pour le reste, j'ai pas encore vraiment testé les outils de texte. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on revienne.
Sinon, avec iOS 18.4 et macOS 15.4, j'ai quand même une petite déception. Alors là aussi, hein, c'est pas vraiment dans le paquet Apple Intelligence, mais bah, j'espérais que l'application recopie de l'iPhone allait se mettre à marcher plus ou moins en même temps.
Ouais, c'est pas
Voilà, il y
encore le
a un
cas.
point de blocage qui est assez flou. Enfin, ça, c'est visiblement lié à l'Union européenne sans qu'on sache trop pourquoi. Mais voilà, c'est dommage parce que, enfin, moi, cette application, je pense qu'au quotidien, elle me rendrait deux ou trois services. Mais bon, écoute, je continuerai à faire sans et à attendre.
Dans tous les cas, toute l'équipe va expérimenter là, au cours des prochaines semaines les différentes fonctions d'Apple Intelligence. Puis on prévoit de faire un petit bilan avec nos impressions autour du lancement début avril, du lancement officiel. On va passer à un autre sujet. Apple a annoncé cette semaine qu'elle allait dépenser et investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. Alors le montant n'a sûrement pas été choisi au hasard, c'est la même somme que le plan Stargate dans l'IA annoncé récemment par OpenAI, Oracle et SoftBank. Les 500 milliards de dollars d'Apple vont servir entre autres à créer un centre de formation d'ouvriers spécialisés, à mettre en place une ligne de production de serveurs au Texas, à abonder un fonds industriel et puis ben, à payer les fournisseurs. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette annonce?
Alors déjà le chiffre 500 milliards. Bon, même si c'est de la com, c'est quand même colossal et cela dit quelque chose du poids d'Apple dans l'économie américaine. Voilà, il ne faut pas prendre cette annonce seule parce qu'elle intervient dans un contexte assez compliqué pour Apple. Et aujourd'hui en plus, j'ai décidé de prendre un petit peu la défense de Tim Cook. Comme tu le sais, l'industrie high-tech s'est rangée derrière Donald Trump après son élection. J'apprends rien à personne. Mais ceci dit, avec des niveaux d'implication différents. Il y a, on va dire, les convaincus, et je pense que même le mot n'est pas assez fort. Donc là, je pense évidemment à Elon Musk. Il y a Zuckerberg, dans le genre arriviste, et qui veut laver plus blanc que blanc, et pas mal du tout. Il y a aussi d'autres dirigeants qui étaient républicains et qui étaient plutôt proches des idées de Trump, hein. Et puis, bah, il y a Tim Cook. Alors, moi, je suis à peu près persuadé qu'il ne goûte que peu aux idées de Donald Trump, mais que peut-il faire? Prendre la parole et dire au fort que les États-Unis vont droit dans le mur avec un président rédactionnaire, ouais, ce serait suicidaire, ça marche pas, ça. Et surtout que Tim Cook, son truc, hein, il nous l'a montré depuis, on va dire, une bonne décennie maintenant, c'est la réelle politique. Alors il va essayer de tirer le moindre profit en faisant le minimum. Là où Zuckerberg reprend à son compte les thèses de Trump en parlant de masculinité et de je ne sais trop quoi, Cook, lui, se contente de féliciter sur X Trump pour son élection. Il est présent discrètement à la cérémonie d'investiture, ceci dit en faisant un don d'1 million sur ses deniers personnels pour dire « Et regardez, je suis là et je te soutiens ». Et il se contente de dire « Ah oui, j'ai eu un great meeting avec le président quand on le voit sortir de la Maison-Blanche ». Alors, Tim Cook fait des efforts, mais il essaie d'en faire le moins possible. On lui dit que ce serait bien de faire de la publicité sur X. Alors, selon le Wall Street Journal, le retour d'Apple et d'autres annonceurs, ce n'est pas un hasard. C'est purement une histoire politique. On leur a fait comprendre que c'était bien de retrouver le chemin du réseau social d'Elon Musk. Alors, pour l'image d'Apple, c'est peut-être pas top. Mais bon, ça reste de la publicité, il y trouve certainement son compte. Bah, le plan de 500 milliards de dollars, c'est à peu près pareil, c'est pour faire plaisir. Sauf que là, enfin, je me répète, c'est de la politique. On additionne toutes les sommes qu'on avait prévues d'investir depuis longtemps, on prend en compte les investissements directs, on fait 2-3 annonces, comme tu disais, relatives à l'usine qui assurera l'assemblage des serveurs qui composeront le Private Cloud Compute d'Apple, et le tour est joué. Donc ça donne vraiment l'impression qu'Apple participe à l'effort de guerre, sans trop en faire. Comme cela, Tim Cook il peut revenir à la charge et dire à Donald Trump « Bon, bah, tu vois, j'ai fait des efforts, maintenant ce serait bien que tu règles mes petits soucis en Europe ». On notera que la machine semble se relancer à Bruxelles. Et d'autre part, là, ta taxe de 10% sur les produits importés de Chine, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose et que ça ne concerne pas mes produits parce que tu vois, je fais quand même des efforts. Ceci dit, la partie est loin d'être gagnée pour Tim Cook car on a vu qu'il y avait quand même un gros point d'achoppement entre les deux hommes. Lors de l'Assemblée Générale d'Apple, la proposition voulant mettre fin au programme DEI pour diversité, équité et inclusion a été rejeté. Alors Cook s'en est félicité, mais il a reconnu, ceci dit, qu'une évolution du paysage législatif pourrait pousser Apple à revoir quelque peu le cadre de son programme. Et d'ailleurs, enfin, tu l'as sans doute noté, la réponse de Trump n'a pas tardé. Il est furieux de la décision des actionnaires d'Apple, estimant que les programmes DEI ont fait énormément de mal à l'Amérique. D'ailleurs, pour rappel, Meta et Alphabet ont récemment cessé leur programme DEI. Donc, Tim Cook essaie de... Comment dire,
De résister. Je ne sais pas si le mot est bon.
Ouais, mais... c'est pas non plus... voilà,
De ménager le
chèvre. Il y a une ligne de crête, comme on disait à l'époque du Covid. Voilà, il est vraiment au milieu de cette ligne-là. Et voilà, et... Alors, il s'en était plutôt bien sorti lors du premier mandat de Donald Trump.
Ouais.
Cette fois, le problème, c'est que Trump est autrement plus décidé à arriver à ses fins qu'il y a une dizaine d'années. Et je pense que ouais, ça promet de ne pas être simple.
Après l'avoir fait miroiter pendant longtemps, Amazon a présenté cette semaine Alexa Plus, une nouvelle version d'Alexa boostée à l'intelligence artificielle générative. L'assistant doit être plus performant tant au niveau de la compréhension des requêtes que des actions qu'il peut effectuer. On devrait pouvoir lui demander des choses plus précises de façon naturelle. Si on lui demande si quelqu'un a récemment promené le chien, Alexa Plus pourra répondre en s'appuyant sur les caméras de la maison et l'analyse d'images. C'était un des exemples donnés par Amazon lors de sa conférence de presse. On pourra aussi demander à l'assistant d'inventer des histoires, donc pas des histoires toutes faites, hein, mais des histoires à partir d'éléments qu'on lui donne. Alexa Plus va coûter $20 par mois et sera inclus dans Amazon Prime. Donc à ce compte-là, autant prendre Amazon Prime, hein, c'est moins cher. Cette nouvelle version sera disponible en bêta aux États-Unis fin mars. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver exactement en France. Ces progrès, c'est tout ce qu'on veut pour Siri, non?
Alors, pour Alexa Plus, je suis quand même un peu méfiant. Les démos sont géniales, ça a l'air top, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour de vrai. Puis il y a un point que j'apprécie particulièrement, c'est qu'Alexa Plus est compatible avec de nombreux terminaux existants. À coup sûr, le nouveau Siri, quand il sortira, Apple nous dira « Ah oui, mais alors pour l'utiliser, il faut acheter les nouveaux HomePod mini. »
Bah ça, je me demande quand même.
Ouais.
Parce que si Siri aussi, il existe voilà, sur les serveurs, donc est-ce que le HomePod a vraiment besoin de beaucoup de puissance de calcul pour faire tourner le nouveau Siri?
Je suis un peu mauvaise langue, mais quand on voit le bazar que ça avait été quand Apple avait permis de changer 10 Siri par Siri, que c'était possible uniquement sur une poignée d'appareils, On verra. Hein. J'espère que tu auras raison, en tout cas. Hein. Ce qui est intéressant dans la démonstration faite par Amazon, c'est qu'Alexa est ouverte à de nombreux services. Ça a d'ailleurs toujours été un petit peu dans l'ADN d'Alexa avec ses skills. C'est ce qui va permettre de rendre Alexa Plus très intéressant, très performant et très puissant. Enfin, comme tu disais, le problème avec Siri, c'est que là, on se rend compte du retard d'Apple dans l'intelligence artificielle. Le Siri boosté, l'intelligence artificielle générative, il n'est pas attendu avant 2026. Donc, c'est pas pour demain. Et sachant que on avait publié un article à ce sujet, le développement d'Alexa Plus a été compliqué. Enfin, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, tout comme Apple qui a des difficultés aussi pour, entre guillemets, remodeler Siri. Donc voilà, Apple est en retard et c'est un peu gênant.
Non, puis ça pose plein de questions quand même, l'intégration de d'IA générative dans ce genre d'assistant. Parce que, alors c'est vrai que voilà, tu peux demander à Alexa de t'inventer une histoire. Évidemment, ça, donc c'est plus intéressant que simplement raconter une histoire déjà toute faite. Mais ça pose aussi des questions de sécurité, entre guillemets. Voilà, pas que Alexa t'invente n'importe quoi comme histoire avec des trucs qui ne soient pas adaptés aux enfants. Voilà, quoi. C'est évidemment pas facile à inventer, à créer, à développer comme technologie.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de la façon dont il arrive, et là, je le répète uniquement dans la démo, de prendre en compte, d'utiliser toute la mémoire qu'il a à la disposition. C'est-à-dire qu'il y a une autre démonstration, on lui demande... par exemple, est-ce que quelqu'un a déposé hier un colis devant la porte ? Et là, donc là, c'est sur les appareils d'Alexa avec écran. Et là, il te ressort précisément la vidéo au moment où le livreur a déposé le colis. C'est franchement impressionnant quand même. Hein.
Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec des annonces d'Apple concernant le contrôle parental sur iOS. Trois nouvelles mesures vont venir renforcer les contrôles déjà existants. La première, c'est une simplification de la configuration d'un compte enfant sur un appareil. La deuxième, c'est la disponibilité de nouvelles classes d'âge pour les applications. Alors pour les ados, il n'y aura plus seulement 12+ et 17+, mais 13+, 16+ et 18+. Alors ça ne nous concerne pas trop en fait en France parce qu'il y a un autre système de classification qui est en place. Et la troisième mesure, Christophe, c'est sûrement la plus intéressante du lot.
12+, 13+, 16+, c'est pas des iPhones, on est d'accord, hein, on parle de catégorie d'âge.
Non, on parle d'âge.
Non, mais je suis content, j'étais entendu parce qu'on en avait parlé il y a quelques temps.
Je pensais à toi.
Voilà, Tim Cook nous écoute. Hein. C'est pour ça que j'étais gentil avec lui aujourd'hui. mais en plus, donc voilà, cette API est prévue uniquement pour le moment sur l'App Store. Donc dans 18.4, les parents auront le droit à un écran de paramétrage supplémentaire. Il y en a quand même beaucoup d'ailleurs, hein. Dans lequel ils définiront les limitations sur le téléphone de leurs enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'information transmise au développeur sera minime, comme toujours avec Apple. C'est-à-dire qu'un développeur pourra connaître la classe d'âge de son utilisateur, mais pas la date de naissance et encore moins le lieu de naissance. L'autre point que je trouve aussi est intéressant, c'est lorsqu'un enfant qui est normalement, par exemple, dans la catégorie âge 4+, imaginons qu'il fasse une recherche pour télécharger un FPS violent parce qu'il a vu son frère jouer, je ne sais, son grand frère, je ne sais trop quoi, et le FPS en question, il n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche. C'est une première étape, c'est vraiment bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tout le monde travaille ensemble autour d'un standard, que Microsoft et Alphabet notamment proposent quelque chose de similaire dans leur OS, et qu'évidemment, que ce système ne soit pas restreint aux applications, mais qu'il soit également mis également en route sur le web, et que par exemple, on empêche, je ne sais pas, enfin, on pense aux sites pour adultes, mais aussi par exemple, empêcher certains adolescents de s'inscrire à des réseaux sociaux.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous et amuse-toi bien avec l'iPhone 16 Plus. J'allais dire l'iPhone SE, c'est encore un peu...
Alors, t'as dit 16 Plus, c'est le 16E.
Oh, purée. On va vite le refaire, là.
Mais je m'amuserai bien avec le 16E, oui. Ce week-end, il n'y a pas de souci. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.